là aussi à la pesanteur de certains et à une forme, là aussi, là encore, d'involution du débat politique et académique. Nous sommes trop souvent habitués à des discours d'euphémisation, pour ne pas dire, dans certains cas, de négation, dès lors que cela implique et met en cause un certain nombre de responsables israéliens et que cela met en cause les pratiques menées depuis fort longtemps, d'ailleurs, par l'État d'Israël, à la fois à Jérusalem-Est, en Cisjordanie et évidemment dans des conditions absolument aujourd'hui catastrophiques dans la bande de Gaza.
Et le Golan, on oublie toujours le Golan. Et le Golan, absolument. Parce que le Golan est annexé.
Oui, tout à fait.
Donc, et c'est un endroit très important parce que il y a la source, le Litani qui est là et qui donc qui va alimenter le lac de Tibériade.
Alors c'est très intéressant cette remarque que tu fais parce que il y a eu une étude diligentée par un ancien ministre socialiste de la Culture, Jean Glavany, dont on aura du mal à faire croire qu'il est et antisémite et islamo-gauchiste. Une étude diligentée alors qu'il était parlementaire et dans laquelle il a cherché à montrer que, effectivement, la politique menée par Israël en matière de l'eau, de sa répartition, et de sa répartition évidemment inégale, et inégale au profit des Israéliens et des colons, était, et c'est le terme qu'il avait employé, une politique qui relevait de l'apartheid. Ceci pour rappeler que, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire aujourd'hui, la qualification d'apartheid, un, n'est pas une qualification morale, deux, ce n'est pas une qualification récente, puisque la qualification d'apartheid a été employée antérieurement, et que par ailleurs en Israël même, un certain nombre de journalistes du Haaretz, et nommons-les, et d'autres bien sûr, je pense à Amir Haaretz, je pense à Gédéon Lévy, mais je pense aussi à de nombreuses associations de défense des droits humains en Israël, d'ailleurs même à des ex-responsables du Shin Bet, qui estiment qu'effectivement, au regard d'enquêtes menées sur le terrain et des pratiques de l'État israélien dans les territoires occupés et ailleurs, ces pratiques peuvent et doivent être qualifiés d'apartheid. Et il s'appuie pour cela, de façon très claire, sur la Convention internationale pour l'élimination et la répression du crime d'apartheid, qui date du 30 novembre 1973. Et rappeler qu'une association, une ONG, pardon, aussi importante que Human Rights Watch, a, sur la base d'enquêtes, mené par ces chercheurs, mais avec le soutien d'ONG à la fois israélienne et palestinienne, considérer effectivement que c'est bien une politique de ce type-là qui a été mise en œuvre et qui, évidemment, est aujourd'hui plus encore mise en œuvre. C'est même au-delà de la situation d'apartheid, puisque la guerre telle qu'elle est menée à Gaza est évidemment constitutive de crimes de guerre, vraisemblablement et très certainement de crimes contre l'humanité, avec des suspicions d'actes de type génocidaire maintenant. Et oui. Rappeler que ces choses-là sont dénoncées par un certain nombre, d'une part d'ONG, mais également de spécialistes.
Et un peu partout dans le monde, je dois le dire, oui. Beaucoup plus qu'en France. Alors, évidemment, on est en train de dépasser et de manger l'émission qui suit, mais je voudrais quand même signaler que tu vas donc parler de ton livre dans plusieurs librairies, notamment le 28 février à 19h à la librairie Le Livre Écarlate, qui se trouve rue du Moulin Vert, dans le 14e. Le 1er mars, ce sera à Toulouse, à la librairie Terra Nova, et le 7 mars, ce sera à Marseille, à la librairie Transit. Donc, nous parlions du nouveau livre de... Puis on arrive encore beaucoup de choses à dire, mais on est obligé quelquefois d'aller un peu plus vite. Donc, le nouveau livre d'Olivier Lecourt Grand Maison, paru aux éditions Amsterdam, « Racisme d'État et État raciste, une brève histoire ». La semaine prochaine, eh bien, nous parlerons de cinéma, notamment justement puisqu'on revient sur ce qui s'est passé pour les Indiens aux États-Unis, puisqu'on parle de réserve, avec un film qui va sortir très prochainement, donc qui a pour titre Eureka de Lisandro Alonso. Mais nous parlerons également d'un film jordanien, Inch'Allah un fils, de Amjad Al-Rachid, Holly de Fientrock, Blue Giant, ça c'est une animation de Tachikawa. Et nous parlerons également d'un festival. Les monteurs et monteuses s'affichent qui aura lieu du 13 au 18 mars au cinéma Luminor à Paris. Très très bonne semaine et bien sûr, comme d'habitude, ben, n'attrapez pas froid et puis surtout, tenez bon.
Radio Libertaire 89,4 MHz, dessous de scène magazine de créatures radiophoniques et de réarmement poétique. Quelques petits « je me souviens » pour commencer ce magazine. Je me souviens de « Baisse-toi et broute », écrit sur une palissade de chantier près de la place Gambetta. Je me souviens d'avoir hésité à draguer la copine de Marie-Pierre, j'ai oublié son nom et son visage, qui était venue avec nous au restaurant chinois. Il y avait pour moi un parfum d'inédit, voire d'excitant. Elle avait 38 ans. Je me souviens de Pointaru, Fricadène, Louimette, Angelina Lina, Magdalénine, Grumeau, Gravelin, Grubine, Pridulin, toutes sortes de prénoms de la présiboté de Groland. Je me souviens que j'avais dû expliquer à Marie et François, si, avant, on pouvait se mettre sous l'abribus du 96 et attendre le prochain, sans même savoir s'il arrivait dans 4 minutes, 12 minutes ou une demi-heure. Je me souviens qu'à l'issue d'une soirée qui n'avait pas tenu ses promesses, Anne-Sophie avait pris les clés de son Austin Mini. Pourtant, Anne-Sophie, c'était plus prometteur pour une soirée que Sofiane, et m'avait raccompagné jusqu'à l'arrêt de bus à destination du pont de Saint-Cloud. Deux bises, une portière qui claque, un « on se revoit » pas sûr. J'avais tâté le fond de mes poches. Si mes clés étaient tombées dans sa caisse, j'étais mal. Et si j'avais perdu ma boîte de Durex non utilisée, elle se foutrait de ma gueule et je n'oserais plus jamais la rappeler. Et puis, j'avais regardé l'heure de passage du prochain bus. C'était dans 7 heures. Putain de soirée de merde. Je me souviens que c'est à cause d'une chanson d'Yves Simon que j'avais cherché chez les bouquinistes les mémoires de Zelda Fitzgerald et que j'avais emprunté Cachemire de Led Zeppelin à Didier pour en faire une copie sur cassette. Je me souviens que Claude ne nous a jamais expliqué pourquoi il avait séché en terminale le cours d'histoire de M. Soulier sur la Shoah, alors que ça pouvait tomber au bac. Ce n'est que quelques années plus tard que Claude nous a dit que sa mère avait été déportée à l'âge de 4 ans. Et alors, si sa mère refusait d'en parler à la maison, pourquoi aurait-il écouté M. Soulier ? Je me souviens que c'est sur proposition d'Albert Ouzoulias, colonel André dans la Résistance et conseiller municipal du 20e arrondissement, que l'impasse Fleury et l'impasse du Progrès, tout un programme ce nom, sont devenues rue du groupe Manoukian. Initialement, ça devait être Manoukian, Bosov, Reichmann. Mais certains, tel Aragon, avaient contesté « On ne peut pas laisser croire que la résistance française a été faite comme ça par autant d'étrangers. Il faut franciser un peu. » Je me souviens de la lettre d'Olga Bansik. « Résistance des Moïs, condamnée à mort et guillotinée à Stuttgart parce que la peine de mort ne s'appliquait pas aux femmes en France. Chère madame, je vous prie de bien vouloir remettre cette lettre à ma petite fille Dolores, Jacob. Après la guerre, c'est le dernier désir d'une mère qui va vivre encore 12 heures. Merci. Ma petite fille, mon cher petit amour, ta mère écrit la dernière lettre, ma chère petite fille. Demain, à 6 heures le 10 mai, je ne serai plus. Mon amour, ne pleure pas, ta mère ne pleure pas non plus. Je meurs avec la conscience tranquille et avec toute la conviction que tu auras une vie et un avenir plus heureux que ta mère. Tu n'auras plus à souffrir. Sois fier de ta mère, mon petit amour. J'ai toujours ton visage devant moi. Je vais croire que tu verras ton père. J'ai l'espérance que lui aura un autre sort. Dis-lui que j'ai toujours pensé à lui comme à toi. Je vous aime de tout mon cœur. Tous les deux vous m'êtes chers. Ma chère enfant, ton père est, pour toi, une mère aussi. Il t'aime beaucoup. Tu ne sentiras pas le manque de ta mère, mon cher enfant. Je finis ma lettre avec l'espérance que tu seras heureuse pour toute ta vie, avec ton père, avec tout le monde. Je vous embrasse de tout mon cœur, beaucoup, beaucoup. Et je me souviens de la dernière lettre de Celestino Afonso, lui aussi fusillé. Je voudrais que mon fils ait une belle instruction. À vous tous, vous pouvez réussir, ma chère femme. Tu vendras mes vêtements pour te faire un peu d'argent. Dans mon colis, tu trouveras 450 francs que j'ai mis en dépôt à Fresnes. 1000 baisers pour ma femme et mon fils. 1000 baisers pour vous tous. Adieu à tous. Celestino Afonso. Thank you. Radio Libertaire 89,4 MHz, dessous de scène magazine de créatures radiophoniques. C'était la version de l'affiche rouge de Léo Ferré, le texte d'Aragon, mais ici uniquement musical, par Tony Imas sur un album consacré aux chansons de Léo Ferré. Et j'avais préparé aussi, peut-être que je vous le passerai un de ces quatre, les chroniques de résistance de Tony Imas avec quelques artistes qui viennent dire des textes, notamment à propos de Olga Banksis. Radio Libertaire 89,4 MHz, eh bien, j'aperçois dans le studio deux animatrices, une invitée et un auditeur, histoire que pour ce magazine, on soit servi dès le début et que les auditeurs soient sur place, finalement. C'est une solution comme une autre, effectivement. Allez, Evelyne, à toi de présenter le sommaire.
Alors, le sommaire... donc bonjour les auditrices et les auditeurs de Sous de Seine 89.4. Aujourd'hui, nous avons pour invité un joli plateau. Pour le spectacle Fatatra, nous avons Anne Baquet.
Bonjour à tous.
Voilà, bonjour. Que les auditeurs, auditrices connaissent parce qu'elle est déjà venue plusieurs fois ici.
Oui, j'ai eu la chance d'être invitée plusieurs fois et c'est un honneur.
Voilà. Et alors, il y a un fan d'Anne Baquet qui s'appelle Fabien Roland. Ouais.
Bonjour à tous. Voilà. J'ai découvert Anne justement grâce à Dessous de Seine.
Voilà. Ouais. Il y a Anne Delalleux qui est chroniqueuse théâtre et aussi une fan d'Anne Baquet.
Ben oui, toutes les Anne sont merveilleuses.
Mais oui, c'est les meilleures.
Les choses.
Mais hein. Oui, voilà. Question ne se pose même pas.
Et puis, en deuxième partie, nous aurons un metteur en scène, Jean-Benoît Patricot, et un grand comédien, Bertrand Scholl, jeune grand comédien, pour une pièce inspirée d'une nouvelle de Zola, L'Aquaboniste. Voilà. Et entre les deux spectacles, il y aura un texte de Jean-Marie, tiré de Jacques Prévert, L'Alali des étranges et étrangers, hein, un extrait. Et puis, la prochaine émission, je pense qu'on mettra en entier. Et puis, un poème de Prévert dit par Fabien Roland. Et la chronique théâtrale de Madame Anne.
Voilà.
Madame Anne. Bon, on commence tout de suite avec Fatatra. J'aime bien le titre.
Hein, ah, bah, c'est bien. Voilà. Nous l'avons trouvé, notre équipe et moi-même, un soir devant une assiette et un coude rouge.
Ah bon?
Mais oui, on a. C'est-à-dire que Fatra, moi, je connaissais parce que c'est un des titres d'un des volumes de Jacques Prévert.
Ouais.
Et puis moi j'aimais bien le côté un peu festif, genre patatras, vous voyez, un peu hop, on se retourne sur une galipette et hop, c'est reparti. Et donc l'association des deux a fait Fatatra, vous voyez, c'est...
Ah bien.
Voilà. Ah, alors il y en a qui prononcent Fatatras, mais comme Fatra se prononce, il y a un S et...
Moi j'aime bien Fatatra.
Voilà.
C'est original, hein. J'aime bien.
Écoutez,
hein.
Je ne sais pas, mais en tout cas je trouve que ça va bien avec l'idée du spectacle, je crois.
Oui. Il est moins connu, le recueil de Fatatra, je crois, de Fatra.
Oui, mais il y a quelques... Je crois qu'on en a... On a d'ailleurs dans le spectacle pris quelques... Voilà, dans ces paroles, voilà, qui est le plus connu, évidemment, mais il y a beaucoup d'autres textes qui se retrouvent dans les...
Oui.
Il faut aller sur la Pléiade, voilà, ils ont tout.
Alors, c'est un spectacle qui est en hommage à Jacques Prévert, hein, on peut le dire. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que... j'ai trouvé que le montage des textes était réussi parce que c'est pas évident de passer du rire aux larmes, et avec Prévert c'est que ça, hein, il me semble, j'ai vraiment senti ça. Il y a de l'humour et il y a des textes qui sont presque comme des comptines pour les enfants, hein, que j'aime beaucoup. Notamment en sortant de l'école, ça je l'adore. Ça, c'est, en sortant de l'école, ma fille chantait ça. J'étais émerveillée par cette chanson. Et puis il y a des textes qui sont franchement plus féroces, hein, plus féroces, plus politiques, qui parlent quand même des trucs qui vont pas bien dans le monde, quoi. Comme je sais plus.
Il y a la grève, évidemment, la période de la grève. Mmh. Il assomme un peu les bourgeois, mais bon, En plus, c'est une famille bourgeoise, hein, la famille Prévert. C'est pas du tout des prolos ou quoi que ce soit. Hein. Mais
oui, mais quand même. Bourgeoise, petit,
oui,
pas,
petite
pas
bourgeoisie.
Bourgeois, hein.
Oui, non, petite bourgeoisie, mais c'était pas des ouvriers, voilà. Donc, mais il a côtoyé, il aimait ce monde et il était proche de tous ces gens. Et c'est vrai qu'il avait cette. Je pense qu'il aimait l'homme comme il était. Et je crois que, bah, il est. On disait qu'il n'était pas très gay. Alors moi, j'ai pas eu la chance de le rencontrer. J'aurais pu.
Oui, parce que ton père, Maurice Baquet, était un ami de Jacques Prévert.
Absolument, c'était son mentor. Attention, ouais. Mentor. Ouais. C'était quand même assez important pour l'époque, parce qu'il a fait partie du groupe Octobre, à l'époque, voilà, la grande époque un peu politique de Prévert. Et il montait des pièces. Et c'est vrai que Prévert, à l'école, on l'étudie toute la partie poétique. Mm-hmm. Mais justement, dans ce spectacle, je voulais essayer en 1h10, parce qu'on a fait 1h10, essayer de montrer un tout petit peu, voilà, avec le metteur en scène, avec Jean-Paul Faré qui est avec moi sur scène. J'ai fait un premier tri parce qu'il fallait bien que quelqu'un s'y colle. Donc voilà, j'ai tout relu. Puis après, on a monté.
C'est toi qui as fait le tri.
Ben, j'ai commencé, disons. Disons que j'ai
c'est
tout relu.
Les femmes, hein, qui font le tri. Hein.
J'ai commencé. Et puis ensuite, il y a eu un travail. Le metteur en scène est arrivé. On a demandé des idées aussi à Jean-Paul. Voilà, donc tout ça, c'est quelque chose qui s'est nourri.
C'est collectif, ouais.
Absolument.
Oui, tout à fait.
Tout à fait. Et puis, c'est toujours un plaisir de redécouvrir cet auteur, parce que c'est vrai qu'on lit toujours à peu près les mêmes poèmes. Oui, là, ça m'a permis d'aller chercher. Et grâce à aussi sa petite fille, Eugénie Bachelot-Prévert, que je connaissais grâce à ma famille, évidemment.
Elle est peintre. Hein.
Elle est peintre. Oui, tout à fait. Et elle fait des choses assez. D'ailleurs, j'ai vu une de ses expositions avec des collages, parce que Jacques Prévert faisait des collages. Et là, on retrouve un peu. Alors, c'est pas le même univers, mais on retrouve un peu cette technique. J'étais très contente.
Elle doit être imprégnée un petit peu de.
Je pense aussi, oui, évidemment. Oui. Oui, oui. Et donc voilà, on s'est appelé, je l'ai mis dans la confidence, je lui ai dit, j'aimerais bien monter un spectacle Prévert. Elle m'a dit, oh, quelle bonne idée. Et puis, elle m'a envoyé des choses. Voilà, je lui ai dit que si tu as des trucs, envoie-moi ça, parce que c'est peut-être différent d'avoir une autre approche. Voilà.
Oui, voilà, je connais Prévert comme ça. Enfin, je veux dire, je ne me posais pas la question. Je veux dire, Prévert, c'est dans. C'est aussi une manière de sentir aussi les choses, je trouve, Prévert. Parce que je pense que les poètes peuvent s'y retrouver et même écrire un peu comme Prévert, même s'ils ne veulent pas faire du Prévert. Je veux dire, il y a un esprit Prévert, je trouve.
Enfin, oui, puis il y a une langue aussi. Il utilise des mots
très simples.
Voilà.
Ça,
alors, on
ça
peut dire, on ouais. peut dire aussi quelquefois, oui, c'est un poète un peu simple. Enfin, mais en même temps, dans cette légèreté du mot, parce que les mots, on a l'impression que c'est comme les. Vous savez, quand un scientifique vous explique quelque chose de très compliqué et il le fait tellement bien, avec des mots très simples, tout semble facile, vous savez.
Oui, bien sûr.
Et clair. Ouais. Et c'est vrai que là, la poésie souvent peut être un petit peu ardue. Et là, sur Prévert, c'est vraiment. Je dis pas que c'est enfantin, parce que justement, il y a deux lectures. C'est ça la chose aussi, c'est que les enfants s'y retrouvent et en même temps les adultes y trouvent autre chose.
Oui, tout à fait. Il y a plusieurs, il y a plusieurs degrés. Hein, je veux dire, c'est ça qui est formidable. C'est ça.
Oui, je pense que c'est un.
On y rentre par plusieurs entrées.
On peut dire ça, oui.
Ouais,
absolument.
C'est ça.
Absolument.
Ouais. Donc. J'allais te demander, parce que c'est des traditions, hein, ce Radio Libertaire, si tu pouvais, comme ça, là, comment dire.
Ah oui, chanter quelque chose.
Oui.
Ah bah bien sûr. Attention, c'est parti. Hein. Non. Alors je vais faire un petit extrait, puisque j'en chante une en plus à cappella. On chante pas mal à cappella d'ailleurs dans le spectacle.
Bah oui, j'ai vu ça.
Et là, j'en chante une que j'aime beaucoup. Après, je vous raconterai l'histoire. Ça s'appelle Les enfants qui s'aiment. Les enfants qui s'aiment s'embrassent debout contre les portes de la nuit. Mais les passants qui passent les désignent du doigt. Mais les enfants qui s'aiment ne sont là pour personne. Et c'est seulement leur ombre qui tremble dans la nuit, excitant la rage des passants. Leur rage, leur mépris, leur rire et leur envie, Les enfants qui s'aiment ne sont là pour personne. Ils sont ailleurs, bien plus loin que la nuit, bien plus haut que le jour, dans l'éblouissante clarté de leur premier amour.
Bravo. Ah, bravo. Ouais.
Bravo. Hein.
Merci beaucoup.
Oui, c'est une très belle chanson. Oui, ça.
Oui, alors cette histoire, c'est un film qui était, enfin cette chanson est extraite d'un film de Carnet.
Les Portes de la Nuit.
Absolument. Et dans ce film, il y a donc le premier rôle, première fois à l'écran, Yves Montand, et partenaire, une jeune comédienne qui s'appelle Nathalie Nattier, qui l'accompagne sur ce film. Chose incroyable, c'est la tante de ma mère.
Ah,
c'est la sœur de ma grand-mère.
Ah, d'accord.
Nathalie Nattier. Et elle devait chanter, parce qu'elle chantait très bien, et elle devait chanter la chanson à l'écran, mais je ne sais pas ce qui s'était passé, c'est pas elle qui la chante.
Ah,
je crois que c'est une autre chanteuse qui l'a enregistrée. Et dans le film, d'ailleurs, il est chanté très très court. Et c'est un homme qui chante dans la rue cette chanson. Je me souviens plus exactement quel est le comédien, mais voilà. Et elle est attachée à ce film-là. Voilà la petite histoire.
Oui, d'accord.
Donc c'est proche.
Voilà. Et juste après, je crois, c'est Jean-Paul Farik qui chante une chanson qui commence par... Il est terrible, le bruit.
Alors, oui, c'est l'œuf dur, évidemment.
L'œuf dur sur le comptoir. Hein.
Sur le comptoir d'étain, ça c'est un poème très très dur et en même temps, c'est tellement Prévert là. C'est tout le monde le connaît d'ailleurs dans la salle, tous les soirs on l'entend.
Café crème.
Il le dit très très bien, Jean-Paul.
Oui,
hein.
Ouais.
Parce que moi, j'ai tout à coup. On est dans une ambiance, c'est presque dramatique, quoi, je veux dire.
Oui, et en même temps, il arrive à faire sourire un peu les gens, parce que la situation est tellement énorme que les gens même arrivent à sourire à un moment, parce qu'on se dit, mais oui, c'est vrai, on réécoute le texte. Jean-Paul est formidable, et il est formidable dans Barbara aussi, je ne sais pas si
vous
souvenez, parce que Barbara est chantée. Et là, on a pris le parti, le metteur en scène, Gérard Robert, a pris le parti de lui dire non, tu vas le dire, ça sera beaucoup plus fort.
C'est un grand interprète, parce que moi je le connais, Jean-Paul Faret, pour l'avoir vu dans des pièces avec le piano.
Ah bah oui, il a fait beaucoup de choses avec piano, c'est son partenaire pendant des années. 50 ans de métier quand même.
Je l'ai vu complètement foufou, très fantaisiste.
Ah bah oui, complètement.
Et là, tout à coup, il se transforme en artiste dramatique.
Ah mais il a joué, je crois qu'il a fait énormément de choses. Il a joué Shakespeare, il a fait du subventionné, il a joué beaucoup de choses et on l'a souvent cantonné dans des rôles comme ça un peu foufou, mais un bon comédien, il fait tout.
Ah
hein.
Oui, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et puis il y a les intermèdes musicaux, là, je sais plus. C'est quel instrument que vous utilisez
alors on a plein de petits jouets. On a été chercher la malle à jouer. Je fais une petite pub pour Paul Beauchère à Bastille, chez qui nous sommes allés nous ravitailler en matériel pour enfants.
Oui, parce que je n'ai pas tous identifié ces instruments.
Non, alors il y a un petit xylo, il y a des tubes, vous avez vu les tubes
qui
font des sons.
Oui.
On a des crécelles, on a des castagnettes, on a des petites choses comme ça, on a des
bilboquet,
on a un kazoo.
Bilboquet, non, peut-être non, pas.
Non,
mais
on a le kazoo, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors il y en a un où je fais un petit bruit, je ne sais plus le nom. Et puis on a aussi le mélodica. Le mélodica, c'est ce qu'on fait avec un tuyau. Vous savez qu'on doit souffler dedans, c'est un clavier. Et ça
fait du son. Voilà. Je ne savais pas comment ça s'appelait.
Mélodica.
Mélodica.
Voilà. Et puis on a un orgue de Barbarie aussi.
Ah, mais ça, c'est magnifique, l'orgue de Barbarie. Ça, j'adore l'orgue de Barbarie.
Et oui, je profite alors pour faire de la pub à mon ami Gérard, qui son site, c'est leturlutin.fr.
Ah,
il
ouais
fabrique cet instrument-là en Lorraine,
ah ouais,
dans sa maison. Il en est au 12e exemplaire. Il n'arrête pas d'en fabriquer. Ça marche très, très bien. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur leturlutin.fr.
Ah oui, l'orgue de Barbarie, c'est quand même... C'est antique, quoi, je veux dire.
Oui, alors celui-là, évidemment, pourquoi il le fabrique? Parce que ce n'est pas un vrai. Alors, je vais pas tout... Bon, les auditeurs, pour ceux qui viennent, ils viendront par curiosité, mais c'est un... On voulait au départ un vrai... Mais alors, ça veut dire qu'il y a un système de carton. C'est compliqué à enlever, à remettre. Pendant un spectacle, ça peut être embêtant. Et donc, cette personne, on allait pour lui acheter un vrai. Et il nous a dit, mais vous savez, j'en fabrique un électronique.
Ah oui.
Et donc celui qu'on utilise, c'est en électronique. Mais le son est vraiment, vraiment formidable. Et il suffit juste, voilà, de, on a fait faire un arrangement par notre ami pianiste partenaire Damien Nédonchel, qui a enregistré toutes les chansons sur un clavier MIDI, et clé USB, clac, clac, on l'a mis dedans, et ça sort avec le son de l'orgue de Barbarie. C'est génial. J'ai pas eu un seul problème.
Ah ouais.
Parce que c'est vrai que les prototypes, moi c'est le numéro 8, alors de temps en temps je me dis, il y a bien un jour...
Ouais.
On va tourner la manivelle, ça va pas marcher. Oh, eh bien, ça n'est pas arrivé encore.
Ah, d'accord.
Je touche du bois.
Et donc, le spectacle, il se donne jusqu'au 3 mars.
Oui, hein. déjà.
Déjà, c'est dommage hein, que ça reste jusqu'au 3 mars.
Eh bien, écoutez, ça s'est fait comme ça. En tout cas, nous sommes quand même ravis d'avoir fait toute cette
longue... Il y a du monde, hein, j'imagine.
C'est plein. Ah. Les gens savent ce qu'ils vont voir, parce qu'il y a toujours le petit moment où... où le public vient comme ça pour voir, et puis maintenant on sait dès la première ils savent ce qu'ils vont voir, donc c'est vraiment un plaisir pour tout le monde.
Peut-être oui. Plus tard vous pourrez faire des dates, non?
Mais écoutez, faudra lancer l'idée au théâtre de faire une petite reprise.
Bien sûr.
Voilà, la rentrée prochaine.
Oui, je serais.
Voilà,
c'est pas mal, parce que je trouve que c'est un spectacle très instructif finalement, sur Prévert. Les gens, parce que il y a des aspects de Prévert que les gens ignorent, justement, son côté...
Oui, et puis on dit souvent que c'est pour les enfants, or pas du tout. J'ai des enfants, mais il y a de tout. Il y a les enfants qui viennent avec leurs parents pour écouter un peu de Prévert. Et en même temps, on a eu quelques classes, mais pas tant que ça, parce qu'on pourrait en avoir beaucoup plus. Mais ça se prépare longtemps à l'avance.
Oui.
Et là, c'est vrai que c'est un peu court. Comme, donc voilà, peut-être qu'on aura plus de classes en plus qui viendront à la rentrée.
Je pense que ce serait pas mal, parce que ça permet d'avoir une vision plus... plus ample, plus général de l'œuvre de Prévert, qui est très
très dense aussi,
très dense
et très puis, prolifique, très prolifique.
Oui, très prolifique et puis surtout, elle est multiforme quoi, je veux dire. C'est pas,
oui. Mais il savait, ça s'amusait et en même temps c'était sérieux. Et puis on n'a pas pu mettre tous les textes parce que vous parliez de étranger par exemple, ce texte qui est fantastique.
Oui.
Bon, il est il fallait le mettre en entier dans un spectacle. On ne peut pas mettre un texte comme ça. Il est trop long. Il y avait un texte sur Citroën aussi, qui est formidable.
On va passer un extrait dit par Jean-Marie. Alors, Jean-Marie n'était pas content parce que je lui ai dit que je n'ai pas mis en entier. La prochaine fois, je le mettrai en entier.
Mais oui, voilà. Voilà, d'où le problème.
Voilà. Parce que c'est vrai que c'est un texte qui est magnifique. Quoi.
Oui.
Et qui est très intéressant parce qu'il est... il est pointu, quoi.
Oui,
je veux dire,
là,
on voit qu'il a quand même un regard sur le monde, sur politique. C'est virulent aussi, il est virulent. C'est pas. Donc, il a beau ne pas être de famille ouvrière.
Il a toujours défendu. Je pense que c'est l'homme en général. Et toutes les horreurs ou les misères que lui considérait qu'il avait sûrement une vie incroyable et
oui sans doute oui.
Et je pense
c'est ça, il était solidaire quoi.
Oui, et puis ils s'aidaient tous entre eux, il y avait une espèce de solidarité dans le groupe. Mon père me racontait
le groupe Octobre.
Oui, et puis ils ont tous habité plus ou moins ensemble pendant une période, c'était même avec il y avait ils habitaient rue du Château avec Robert Desnos, il y avait des auteurs, il y avait des peintres, il devait y avoir une émulsion là-dedans, ça devait être quand même assez incroyable.
Oui, c'était l'époque du surréalisme, ça.
Oui,
c'est,
absolument.
Voilà. Et lui, il voulait sa liberté, ce que je comprends très bien. Puis André Breton était bien sympa, mais un petit peu autoritaire sur les bords.
Voilà, donc il y a eu un schisme qui s'est opéré. Bon, faut dire que c'était des fortes personnalités aussi. Hein, donc,
Oui, et puis il y a eu quand même la guerre, quand même. c'est là qu'il a aidé son musicien favori qui l'accompagne pour la musique,
Joseph Kosma.
Voilà.
Absolument, qu'il a rencontré avant la guerre, d'ailleurs, juste un petit peu avant la guerre, qui est arrivé de Hongrie, justement, parce que les Allemands commençaient à envahir tous ces pays-là. Il est arrivé en France et a été mis sous la coupe de Jacques, qu'il a pris. Et ils ont écrit des chansons magnifiques ensemble.
Ouais, c'est lui qui fait les musiques, enfin les...
Oui, parce que j'en avais d'autres, parce qu'il a travaillé avec d'autres trois compositeurs, mais ça s'est fait comme ça, on n'a pas fait exprès, on n'a pas pu mettre Christiane Vergier, on n'a pas pu mettre Louis Bessières. Voilà, il faudrait faire un opus 2.
Oui, c'est ça, parce que c'est... Sur le site du théâtre Poche Montparnasse, il y a tous les textes que vous
absolument il y a
dit chanter et on s'aperçoit que c'est costaud, hein.
Oui oui, en 1h10 on arrive quand même à faire pas mal de trucs.
C'est très costaud et il y a même des citations qui sont tirées des films ou qui sont tirées de dialogues. Enfin c'est vraiment un... C'est impressionnant.
Ça fait un petit panel. Voilà,
ouais.
Un petit panel.
On va peut-être écouter une bande-annonce. Alors, j'y ai eu deux, hein, je crois. Non. Alors,
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous laisse.
Je crois que c'est vous qui l'avez dit à la fin du spectacle. On a mis une nouvelle bande-annonce. Mais bon, peu importe. J'ai vu qu'il y avait deux bandes-annonces.
Ce n'est pas moi qui ai dû dire ça à la fin du spectacle. Non, j'ai pas fait d'annonce. Alors peut-être que c'est la
bande-annonce. La bande-annonce.
Ah, dans la bande-annonce, je ne sais pas du tout. Enfin, il y en a eu deux. Il y en a une qui s'est faite il n'y a pas longtemps.
Voilà, c'est ça.
Il y a eu la première.
Voilà. Bon, on va écouter.
En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré.
Quand vous citez un texte con, n'oubliez pas le contexte.
J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait. En partant.
Être ange, c'est étrange. Dit l'ange. Être âne, c'est être âne. Dit l'âne.
Une mater dolorosa de papa gâteau. Trois rossignols de père de sabot. Cinq dentistes. Quand quelqu'un dit je me tue à vous le dire, laissez-le mourir.
Il faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple.
Nous étions tous les deux ensemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais.
Moi, je jouais au cerceau, à la balle, au chasseur. Je jouais à la marraine, je jouais avec un seau. Je jouais avec une pelle, je jouais au papa et à la maman.
Jacques a dit... La poésie.
C'est le plus joli surnom que l'on donne à la vie.
Voilà, donc c'est une, ça c'est la, je crois que c'est la deuxième bande-annonce.
Oui, oui, c'est absolument, c'est la deuxième bande-annonce. Oui.
Ça donne le ton un peu... c'est un spectacle qui est joyeux. Hein.
Mais bien sûr, parce qu'on se dit Prévert, c'était pas quelqu'un de très gay, mais en même temps, il se marrait bien avec ses copains, comme il disait avec les copains, parce qu'il disait souvent les copains. On se marrait bien, et c'est, même si c'était des choses un peu revendicateurs, un peu dures, il équilibrait toujours avec des sketchs un peu surréalistes, complètement absurdes. Ils aimaient bien casser comme ça le rythme.
Et j'aime bien aussi « Je suis comme je suis faite comme ça ». Ça me plaît beaucoup aussi comme
poème. Ah, mais tu le dis, ça, dans le spectacle.
Je chante, non,
Oui, c'est vrai.
Parfois, on
sait
plus.
On sait plus. Est-ce que c'est trop de demander de le chanter?
Je vais faire un petit... Alors, je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime, est-ce ma faute à moi? Si ce n'est pas le même que j'aime chaque fois. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi?
Ah oui, oui. Ouais, c'est... Oui, parce que ça, le chant, ça apporte beaucoup, je trouve, dans le spectacle. C'est important. C'est important parce que ça donne... c'est pas souvent qu'on entend des gens, des personnes comme toi, chanter a cappella comme ça. C'est rare.
Oui, c'est un exercice qu'on a beaucoup, beaucoup répété avec Jean-Paul. Ouais. Jean-Paul, c'est quelqu'un qui aime travailler. Et c'est vrai que, comme on a chanté beaucoup de choses ensemble, il fallait répéter. Mm-hmm. Donc, avec Jean-Paul et puis avec Gérard Robert, le metteur en scène, qui était là derrière nous, on a vraiment, vraiment pas mal revu les choses. Ensuite, la musique est venue se greffer. On avait la malle à jouer. Gérard nous a dit, vous avez la malle à jouer, vous cherchez les objets. Et voilà, on voit. Donc, on a eu un petit terrain de jeu pendant un moment.
Oui, c'est pour ça que je suis plus... J'ai parlé de cours de récréation.
Oui, mais c'est un peu ça, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, on va faire récréation, absolument.
Ouais. Quelqu'un qui nous dit au revoir. Si
vous... D'accord.
Ah, bonjour Michel. Ben, installe-toi si tu veux. Oui. C'est un autre animateur de Radio Libertaire.
Pardon.
On est né le même jour, la même année, pas la même heure.
Ah, c'est un jumeau, quoi.
Non, oui, il est né à Paris, moi je suis née à Sept-Fonds. Voilà. On est avec Prévert, Michel.
Bien, bien. Moi, je suis venu juste pour deux petites annonces.
D'accord. Ouais. Très bien. T'as pas de texte.
Non.
Bon, c'est pas grave. Tu feras tes annonces, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je voulais dire
Le prochain spectacle.
Oui, on va d'abord dire quand même.
L'actuel spectacle.
C'est très important. Franchement, ça vaut le coup. C'est parce que ce n'est pas tous les jours qu'il y a un spectacle aussi complet sur Jacques Prévert. Donc, Fatatra. Et d'ailleurs, ça s'intitule Inventaire de Jacques Prévert.
Absolument.
Oui. Et c'est évidemment par rapport à sa chanson L'Inventaire, qui chantait par.
Oui, et puis il n'y a pas de. Parce que certains ont dit, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de choses comme ça. Non, c'est un inventaire, c'est-à-dire qu'on a vraiment mis à la suite. Alors après, avec la mise en scène, fait que ça coule.
Oui, c'est mais très lié.
Voilà, tout est lié, mais c'est vrai que pour les personnes un peu théâtralement parlant, se disant, ah oui, mais il n'y a pas d'histoire, on ne sait pas qui commence quoi, on ne sait pas. Voilà, c'est un inventaire.
Oui, et un inventaire. Je ne vais pas dire loufoque, mais enfin, je veux dire, parfois je me suis dit comme ça, si par un curieux hasard, on se retrouvait tout en haut d'une étoile et qu'on regardait ce qu'il y a sur Terre, eh ben, ça pourrait faire un inventaire des animaux, des hommes, l'inventaire de Prévert.
Oui, c'est ce que pense sûrement Thomas Pesquet en haut de son. Dans sa capsule.
Ouais, alors, ça. Ça fait partie du spectacle. Et donc, du mardi au samedi,
à
19h, et le dimanche à 15h, jusqu'au 3 mars, 75 boulevard du Montparnasse, au Théâtre Poche, dans le 6e, à Paris. Voilà.
Je dis toujours le petit Poche, moi, parce que s'il y a deux salles, il y a la grande salle.
Oui, mais je pense qu'une fois qu'ils vont rentrer, ils vont pas se perdre.
Oui, non, ils risquent pas de se perdre.
Non, ils risquent pas de se perdre.
Non, oui, moi j'aime bien les bancs.
Les petits bancs avec un peu. C'est une salle un peu polyvalente, qui est très bien.
Curieusement, ça m'a rappelé quand j'étais petite. De temps en temps, les institutrices nous emmenaient pour aller voir une séance de films. Et on était installés sur des bancs, comme ça.
Sûr, oui.
Exactement.
Ben voilà, ça vous rappelle l'enfance, comme ça. Jusqu'au siège.
Oui. Ou genre de bancs dans le cirque. Mais bon, là, c'est pas en hauteur. C'est à plat. Mais même, j'aime bien cette simplicité du banc. J'aime beaucoup. Parce que l'autre salle... C'est des vrais fauteuils, c'est beaucoup plus sérieux,
c'est du vrai terrain.
Donc voilà. Alors, on va parler donc Anne, ton prochain spectacle.
Le prochain, comme Anne, Bach. Vous voulez.
Comme Bach, création au Lucernaire, du 20 mars au 26 mai. Donc Anne Baquet et sa petite troupe, on va dire, qui était déjà venue il y a quelques années d'ailleurs pour
le spectacle ABCDR.
Que j'avais vu aussi, qui était super, qui était formidable aussi. Et donc rendez-vous le 20 mars alors.
Voilà. Oh, merci beaucoup. Alors que pense notre auditeur?
Moi, ABCDR, je l'avais vu en DVD. Parce que moi, j'avais pas été. Voilà, et c'est vrai que ça m'avait fait bien rire et je trouvais ça étonnant même. Je me souviens d'un passage où c'est que du silence en fait. Vous êtes tous là alignés et ça, j'étais surpris. Je dis, mince, qu'est-ce que.
Ah, mais oui, parce que le silence, c'est la musique aussi.
Oui, et en même temps, c'est vrai que c'est. Enfin, en tout cas, c'est vrai que je trouvais ça incroyable et j'avais beaucoup. Puis on voyait une vraie complicité entre toutes les comédiennes.
Oui, c'est vrai, on est des amis de 25 ans.
Vous vous connaissiez avant, d'accord. Je pensais que c'était un casting qui avait fait.
Non, pas du tout, ça fait 25 ans qu'on se connaît. Donc on est passé par plein de choses. Les amis sont. Voilà,
c'est comme ça qu'on fait des bons spectacles. Il faut qu'il y ait une complicité qui peut même. avoir des années, hein, je veux dire.
Mais il n'y avait pas une violoncelliste de l'opéra, je crois, non ?
Alors, il y en a deux. Il y a deux dans notre groupe, parce que ce sont des musiciennes formidables. Oui, alors voilà, c'est moi qui dois m'aligner, là, parce que... il y en a deux. Donc, il y a le corps anglais solo de l'opéra, quand même, qui est Anne Régnier. Il y a Amandine Dehan, qui est contrebassiste à l'opéra aussi. Mm-hmm. Et puis, il y a Claude Collet, qui est pianiste, qui a une classe d'accompagnement dans le 13e arrondissement, tout le monde se l'arrache, et elle vient aussi de temps en temps faire être pianiste dans différents orchestres à Paris. Et puis nous avons une nouvelle aussi qui vient de rentrer dans l'équipe. Alors chose incroyable, donc elle sera est-ce que le corps anglais a pas mal de concerts, etc. Donc elle la double de temps en temps, elle est en alternance, voilà, c'est pas une doublure, c'est une alternance. Et elle s'appelle Ariane Baquet.
Oh,
c'est quand même assez incroyable. Oh. Et elle n'est pas de la famille
Baquet. D'accord.
Alors ça s'écrit B-A-C-Q-E-T. Mais alors, bien sûr, je vais avoir le droit. Ah, c'est votre cousine, c'est votre... Ouais. Non, ce n'est pas de la famille, mais elle est acceptée quand.
Si on veut jouer au jeu de cette famille, tu as aussi un frère.
J'ai pas mal de frères et sœurs. Oui.
Ah oui, oui.
Et Grégory, je l'avais vu dans Métis Jenkins. Ça c'était drôle, ça.
Coloratour.
Voilà. Il y a rien pour. Il y a pas une annonce pour le
alors. Pour mon frère Grégory, si, parce qu'il a un lieu. Je vais dire des bêtises, donc je préfère pas. Il donc tourne Coloratour.
Oui.
Absolument. Il va y avoir une création. Alors, il faut aller voir sur son site. Je crois que c'est encore plus simple parce qu'il fait des annonces régulières à Grégory Baquet.
Ouais.
Et puis j'ai mon neveu.
Mon neveu
est rentré dans l'équipe.
Un petit Baquet.
Le fils de mon frère Grégory, qui est actuellement aux têtes de la Tour Eiffel dans les années Twist. Théophile Baquet.
Ah, mais il faudra le faire venir alors. Mais enfin, voilà, il joue le camp à quand ?
Il joue le samedi. Alors, je ne sais pas, il y a des alternances. Alors,
il doit être jeune, hein, c'est le neveu.
Oui. Il a
20-25 ans.
25 ans, absolument.
D'accord. Tous vos frères et sœurs sont artistes ?
Eh bien, voilà, oui. Nous sommes. C'est vrai qu'en calculant les cousins, les cousines. Pas mal, alors pas tous, mais c'est vrai que mes frères, oui, sont dans le métier, absolument. Mon frère aîné, Dimitri, a un lieu, dirige le théâtre municipal de Villeneuve-sur-Lot.
Ouais.
Mon frère Grégory a aussi un théâtre à Agen. Mon frère Stéphane est éclairagiste et en même temps s'occupe de la programmation de la Luna à Avignon.
Oh là là.
Voilà, donc moi-même, et puis maintenant j'ai le neveu Théophile. la femme Héloïse Wagner, qui est ma cousine, qui va jouer cet été à Avignon aussi. Enfin voilà, on est un petit peu tous.
Et vos enfants vous suivent?
Mes enfants, pas du tout. Alors si j'en ai un qui va être dans le cinéma.
Ah bon?
Voilà, mais du côté technique.
D'accord. Bah si, quand même alors.
Voilà. Ouais. Si, quand même, un petit peu. Mais pas de comédien, pas de chanteur, pas de musicien.
Ah bon?
Vous auriez aimé justement qu'il soit.
Non, si vous voulez, on n'a pas... vous savez, nous-mêmes, on ne nous a jamais poussés. Hein. Oui. Vous savez, les parents artistes ne poussent pas forcément leurs enfants à faire ce métier. Et même souvent, c'est à nous de nous découvrir. Hein. Enfin, nous, on n'a pas été aidés du tout. Hein. Après, voilà, c'est dans les gènes, peut-être que c'est comme ça. En tout cas, moi, mes fils n'ont pas voulu... ce métier directement, faire un instrument. Alors, ils en ont tous fait, bien sûr, ils en ont fait. Mais voilà, c'est
enrichissant quand même d'apprendre la musique.
Ah, mais ça, de toute façon, même que tu ne deviennes pas musicien, je pense que tous les enfants devraient chanter et faire d'un instrument de musique.
De faire, du théâtre, de la danse aussi.
Parfois, les artistes, ils n'encouragent pas forcément leurs enfants parce qu'ils savent quand même que ce sont des métiers qui sont assez durs quand même.
C'est des métiers très difficiles, mais en même temps, on peut aussi séparer les deux choses, c'est-à-dire faire de la musique, de la danse, comme on fait une activité sportive, comme on fait... ça devrait être... tout le monde devrait avoir accès à ça.
Oui.
Après, en faire son métier, c'est encore autre chose.
Hein. Gagner sa vie, c'est ça aussi.
Voilà.
Absolument. C'est la question qui se pose.
Mais oui, puis on en voit de plus en plus. Donc, le métier devient de plus en plus difficile aussi.
Il faut le dire quand même.
C'est moins long et il y a beaucoup de monde. Voilà. Donc, les places sont chères.
Les places sont chères, oui. Enfin, bon.
Mais il y en a qui arrivent, donc voilà.
Oui, il y en a qui arrivent, mais il faut s'accrocher, quoi.
Ah oui.
Il faut s'accrocher. C'est pour ça qu'à Radio Libertaire, on aime bien faire venir des artistes, qu'ils soient connus ou pas connus, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, parce qu'on se dit que c'est quelque part, comme on a une petite antenne, un petit espace
de liberté.
Voilà. Et ben, c'est bien de pouvoir accueillir des artistes qui n'ont pas forcément la possibilité d'être entendus sur les grandes chaînes, je sais plus, de diffusion.
Oui, sur la télé, même d'ailleurs.
Style France Inter, ou etc. Parce qu'il y a des grands artistes, enfin, il y a des artistes qui ont du talent, je suis désolée, eh ben, on ne les verra jamais, ni à la télé, ni on ne les entendra pas sur les ondes. Et voilà quoi. C'est,
mais c'est un autre monde, de toute façon. La télévision, c'est un autre monde. Ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas de talent. Ça veut dire que c'est une certaine catégorie d'artistes qui passent. Voilà.
Faut se dire, oui, c'est un autre monde. Ouais.
C'est un autre monde, bien sûr. Bien sûr. Alors maintenant, on a les chaînes câblées qui permettent justement, il y a quand même certaines chaînes qui donnent l'occasion à des artistes un peu moins connus de pouvoir faire des choses ou de pouvoir montrer son travail.
Oui, mais les chaînes câblées, c'est... Il faut les connaître. Hein,
oui, toi, alors voilà. En même temps, Culture Box, je trouve qu'elle a fait des choses quand même, de temps en temps, des choses très, très larges. Même sur, après, il y a quand même la 5 ou Arte, il y a quand même des choses qui sont...
Il y a les chaînes, comment on appelle ça, sur le web.
Oui, alors moi, je ne suis pas la génération où j'y vais, parce que déjà, à la télé, je n'y vais pas tellement, mais alors, s'il faut en plus être sur l'ordinateur pour aller faire
alors,
la télévision,
c'est ça.
Mais il y en a maintenant, les
jeunes. Mais il y avait un bon journaliste. Il est parti sur une chaîne sur le web, mais on l'entend plus parler. Hein. Et pourtant, c'était un bon journaliste. Il avait une émission très tard le soir. Je ne sais plus comment il s'appelait. Je n'ai plus son nom sur le... Il avait reçu Fabienne Elkoubi, d'ailleurs.
Ah oui.
Et c'était une émission qui passait à minuit et quelques à la télé. Et puis bon, oust, quoi. Enfin, il a été...
Ah oui, mais de toute façon, là, on passe et on repasse. Hein.
Ouais, c'est ça. Alors maintenant, il est sur une chaîne web, mais bon, on ne peut pas tout le temps être... sur l'ordinateur pour
effectivement les jeunes maintenant font ça
ils sont sur l'ordinateur
alors
je suis la vieille génération
on est la vieille génération
c'est YouTube et puis voilà
c'est ça
ils ont
les ordinateurs et maintenant ils regardent ce qu'ils ont envie de regarder à l'heure
du streaming et puis
absolument même les émissions ils peuvent les regarder en
regardant différé, donc ils ne regardent plus en direct. Non,
quand j'étais gamine, il y avait une émission à la télé hebdomadaire, ça s'appelait Les Trois Coups, avec Lise et Lina, Pierre je ne sais plus trop qui, mais enfin, ils parlaient des spectacles de théâtre.
Oui, il y avait trois chaînes.
Voilà, c'est en noir et blanc.
Mais oui. Tandis que maintenant, on compte plus.
Il y en a trop.
Eh oui, c'est sûr, oui. C'est là que je me rends compte que je suis vieille.
Non,
je suis de l'époque.
On est des années twist, nous.
Je suis de l'époque de Jean-Christophe Averti. Des choses comme ça, quoi.
Ma mère a travaillé pour Jean-Christophe Averti, d'ailleurs.
Ah ouais.
Je suis allée plusieurs fois sur son tournage. C'était quelque chose.
Tu devais être jeune.
Il me faisait peur.
Toute petite.
J'avais 10 ans, 10
ans.
Ah bah
oui, toute petite,
Il se faisait peur avec son zozotage.
Non, il était très, très...
Très dur.
Très dur, à l'émise, pour ses techniciens et tout ça.
Ah oui, je crois qu'il
était un peu... Voilà, il piquait des petites... Un grand artiste, magnifique ce qu'il faisait, extraordinaire.
Ouais, il avait le jazz, je crois.
Ouais, c'était un passionné de jazz, mais je sais qu'il avait...
Il était un peu colérique.
Voilà.
Alice au Pays des Merveilles, il avait fait.
Ah oui,
avec Alice Aprich et Francis Blanche.
Voilà. Il avait fait des shows, tout ça, avec plein d'artistes, avec Gréco, avec Montand, avec plein... C'est lui, hein.
Oui, tout à fait.
Moi, je me souviens...
Le bébé à la moulinette.
Je me souviens, j'étais fascinée, et on voyait des énormes ciseaux, et ils coupaient des têtes.
Mais oui, c'est
moi, ça.
Moi,
ça me fascinait.
Les raisins verts.
C'était les premiers films d'horreur.
Ça me fascinait vraiment. Non, je ne sais pas pourquoi. Non, j'étais enfant, quand je regardais ça.
Oui, tout à fait.
Et puis l'histoire des enfants à la moulinette, là, alors ça, c'est un truc. Oui, non, mais c'était génial, quoi. Je veux dire, génial.
Pour nous, parce que c'était les débuts, mais maintenant, il y a plein de choses aussi formidables. C'est pas la même technique, mais voilà.
Oui, sûrement.
Bien sûr.
Enfin, en tout cas, pour moi, Jacques Prévert, tu es d'accord avec moi,
tout
Anne,
fait.
C'est intemporel.
Exactement,
non, mais c'est vrai. Je pense que...
Et ça fait plaisir parce que les enfants aiment beaucoup Prévert aussi. Alors, donc, plus tard, ils aimeront l'autre poésie de Prévert.
Les étudient toujours à l'école.
Oui, tout à fait.
Ça dépend des instituteurs et des professeurs. Parce que j'en ai croisé qui trentaine d'années, m'ont dit non, j'ai jamais étudié.
Oh, purée.
Et puis il y a des enfants petits qui m'ont dit si, je connais. Et il y a un soir d'ailleurs, c'était assez drôle parce qu'en général, on demande toujours que les enfants soient quand même au premier rang parce que c'est toujours plus facile. Et il y avait deux petits, je crois, 12 ans, quelque chose comme ça, pendant le, quand on chantait, on était en plus de leur côté, là, en sortant de l'école, ah. Ils chantaient avec nous.
Ah, c'est mignon.
Alors, c'était voilà. Sympa, ça.
C'est mignon, ça, oui.
Ouais, ouais. Là, il y avait la sœur qui faisait... Chut, et puis, il y avait le diable qui était là. C'était drôle. Oui, non, mais c'est génial, moi, je trouve que c'est super.
Oui, oui, parce que c'est une chanson. Moi, je l'entendais, c'était ma fille qui le chantait. Et je cherchais pas à trouver un sens.
Non,
et on chantait ça, elle chantait ça, on était au bord de la mer. Et tout à coup, la chanson, ça allait avec le paysage. Non, mais c'est vrai, hein, c'est ce qui est pas mal aussi avec la poésie, c'est que la poésie, on peut la transporter partout, n'importe où. On peut être dans un endroit désert, moche, ou dans un super paysage. Dès qu'il y a une chanson, ça transforme tout, enfin ça donne tout à coup une autre dimension.
Ouais. Vive la poésie.
Mais voilà, c'est ce qu'on peut dire. Voilà. Bah écoute, peut-être Anne, on va te libérer parce que tu as le spectacle
beaucoup.
Ce soir.
Oui, le spectacle ce soir. Merci beaucoup, merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci aux auditeurs de nous écouter et de vous écouter.
Oui. C'est très gentil hein, d'être venu.
Merci Evelyne.
Ouais.
Merci. Merci, bon après-midi.
En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout autour de la terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait avec tous ses coquillages, ses îles parfumées et puis ses beaux naufrages et ses saumons fumés. Au-dessus de la mer, nous avons rencontré la lune et les étoiles sur un bateau à voile partant pour le Japon. Et les trois mousquetaires des cinq de la main tournant la manivelle d'un petit sous-marin plongeant au fond des mers pour chercher des oursins. Revenant sur la terre, nous avons rencontré sur la voie de chemin de fer une maison qui fuyait tout autour de la terre, fuyait tout autour de la mer, fuyait devant l'hiver qui voulait l'attraper. Mais nous, sur notre chemin de fer, on s'est mis à rouler derrière l'hiver et on l'a écrasé et la maison s'est arrêtée et le printemps nous a salué. C'était lui le garde-barrière. Il nous a bien remercié. Et toutes les fleurs de la terre soudain se sont mises à pousser, pousser à tort et à travers sur la voie du chemin de fer qui ne voulait plus avancer, de peur de les abîmer. Alors on est revenu à pied tout autour de la terre, à pied autour de la mer, tout autour du soleil, de la lune et des étoiles, à pied, à cheval, en voiture et en bateau.
Kabyles de la chapelle et des quais de Javel, hommes des pays loin, cobayes des colonies, doux petits musiciens, soleils adolescents de la porte d'Italie, boumians de la porte de Saint-Ouen, apatrides d'Aubervilliers, brûleurs des grandes ordures de la ville de Paris, ébouillanteurs des bêtes tombées mortes sur pied au beau milieu des rues, Tunisiens de Grenelle, embauchés, débauchés, manœuvres désœuvrées, du marais, du temple, des rosiers, cordonniers de Cordoue, souliers de Barcelone, pêcheur des Baléares ou bien du Finistère, rescapé de Franco et déporté de France et de Navarre pour avoir défendu en souvenir de la vôtre la liberté des autres. Esclaves noirs de Fréjus, tiraillés et parqués au bord d'une petite mer où peu vous vous baignez. Esclaves noirs de Fréjus qui évoquaient chaque soir dans les locaux disciplinaires avec une vieille boîte à cigares et quelques bouts de fil de fer tous les échos de vos villages, tous les oiseaux de vos forêts. Et ne venez pas dans la capitale pour fêter au pack à danser la prise de la Bastille. Ah ! Lundi prochain, le 14 juillet. Enfants du Sénégal, dépatriés, expatriés, naturalisés, enfants indochinois, jongleurs aux innocents couteaux, qui vendiez autrefois aux terrasses des cafés de jolis dragons d'or faits de papier plié. Enfants trop tôt grandis et si vite en allée, qui dormez aujourd'hui de retour au pays, le visage contre terre, et des bombes incendiaires labourant vos rizières, on vous a renvoyé la monnaie de vos papiers dorés, on vous a retourné vos petits couteaux dans le dos. Étranges étrangers.
Allez, alors, Fabien, si, Fabien, bon, tu dis ton petit poème. D'accord.
Donc je vais lire un petit texte, un poème de Prévert justement. Donc par rapport aux animaux, parce que j'aime beaucoup les animaux, et puis en hommage à ma chatte Miwa,
oui,
qui est décédée récemment. Donc ça s'appelle « Les animaux ont du souci ». Alors, le pauvre crocodile n'a pas de cécédille. On a mouillé les ailes de la pauvre grenouille. Le poisson-ci a des soucis. Le poisson-sol, ça le désole. Mais tous les oiseaux ont des ailes. Même le vieil oiseau bleu, même la grenouille verte, elle a deux ailes avant le « e ». Laissez les oiseaux à leur mère, laissez les ruisseaux dans leur lit, laissez les étoiles de mer sortir si ça leur plaît la nuit, laissez les petits enfants briser leur tirelire, laissez passer le café si ça lui fait plaisir. La vieille armoire normande et la vache bretonne sont partis dans la lande en riant comme deux folles. Les petits veaux abandonnés pleurent comme des veaux abandonnés, car les petits veaux n'ont pas d'ailes, comme le vieil oiseau bleu. Ils ne possèdent à eux deux que quelques pattes et deux queues. Laissez les oiseaux à leur mère, laissez les ruisseaux dans leur lit. Laissez les étoiles de mer sortir si ça leur plaît la nuit. Laissez les éléphants ne pas apprendre à lire. Laissez les hirondelles aller et revenir.
Merci, merci Fabien. Tu avais juste un spectacle
à... Oui, alors moi j'ai vu Mondial Placard au théâtre Tristan Bernard. Et c'est une comédie de Côme de Belsis que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son écriture. Et là, c'est assez original. C'est une grosse farce. Il a un peu fait le sujet la parité dans l'entreprise. Il y a MeToo, il y a le harcèlement. Et donc, c'est un garçon qui s'appelle Laurent et il en a ras-le-bol. Il ne peut pas obtenir le poste qu'il voudrait. Et c'est Marion, une jeune femme, qui a le poste. Donc, il se dit, il y en a marre, je vais me déguiser en femme. Donc, il se déguise en femme et pour se faire recruter.
Mais c'est un spectacle comique alors, parce que oui, c'est toujours comique, enfin, c'est souvent comique un homme qui se déguise en femme.
Oui, bah, y a Tootsie avec Dustin Hoffman comme film aussi. Ouais. C'est très drôle, hein, le Mondial Placard. Donc il arrive, mais manque de bol, il y a aussi le directeur qui a un petit peu des mains un peu trop baladeuses. et qui le course aussi un petit peu. Alors, c'est un peu embêtant. Il y a les portes qui claquent, machin. Marion, elle commence, elle est vraiment, elle a beaucoup de qualités, mais elle n'arrive pas à s'imposer auprès des cadres masculins. Donc, le directeur lui dit, bah, écoute, c'est simple, tu te déguises en homme, on va voir ce que ça donne. Et elle aussi. Ah, et voilà. Donc, s'il y a des quiproquos, des machins, des trucs. Enfin, c'est assez drôle. Et Mondial Placard, pourquoi ? Parce que il y a un des jeunes cadres qui, lui, n'ose pas approcher la secrétaire dont il est amoureux, parce qu'il a peur qu'elle le dénonce. Il y a aussi une stagiaire ultra féministe XXL qui dit attendez-vous, alors vous êtes en train de la draguer, moi je suis témoin, on va vous traîner en justice. Enfin bref, il y a un petit peu de tout. Et lui, le pauvre garçon, il a créé une armoire, un placard, qui est en intelligence artificielle, on va dire. Par exemple, Evelyne, tu perds ton parapluie, tu le cherches partout, tu demandes au placard où est-ce que tu as mis ton parapluie. Et il te répond. Il dit, bah non, mais c'est dans le deuxième tiroir. Voilà. Ah ouais. Alors, il y a tout ça. Il y a le thème de la parité, de l'exagération, on va dire, sur le harcèlement. Sur
oui, enfin, c'est à la mode, quoi.
C'est à la mode, mais c'est très bien fait, c'est très bien joué, c'est très drôle. Et c'est au Tristan Bernard. Donc, voilà. C'est du mercredi, et voilà, je ne l'ai pas noté, bravo Anne, c'est super, génial. Enfin, donc, c'est Tristan Bernard, et vous, c'est sur le site.
D'accord.
Tristan Bernard, voilà.
D'accord, allez, on enchaîne,
avec Aquaponiste.
Nous avons...
la chance.
Un metteur en scène.
L'auteur.
Oui, Jean-Benoît. Hein, c'est Jean-Benoît, c'est pas fréquent de s'appeler Jean-Benoît.
Non, c'est tombé sur moi.
Patrico.
Oui.
Patrico non plus, c'est pas tellement fréquent
comme
patronyme. Et Bertrand Scholl.
Oui.
Non plus, c'est pas fréquent, je connais pas.
Ah non, c'est flamand belge.
Ah d'accord. Voilà. Alors, vous êtes rencontrés.
Oui.
Alors, sur une nouvelle, j'imagine, de Zola.
De Zola, tout à fait.
D'Émile Zola. Moi, cette nouvelle, L'Aquaboniste, je l'avais lue dans un hôpital, figurez-vous.
Oui.
Hein, je faisais la... qu'est-ce que je faisais ? Ben, j'attendais dans le hall de l'hôpital. Et ça m'a bien fait passer le temps. Et donc, c'est parti de cette nouvelle-là.
C'est ça.
Alors, en deux mots... C'est un homme qu'on déclare mort, mais qui en fait n'est pas mort.
C'est ça.
Voilà. Et à partir de cette nouvelle, alors c'est pas la fin. Enfin, je veux dire, vous bifurquez à un moment donné.
C'est ça, tout à fait.
Vous bifurquez, c'est-à-dire que vous parlez davantage de sa femme, la femme de cet homme-là. Elle prend beaucoup plus de place dans le spectacle que vous avez. C'est Jean-Benoît Patrico qui l'a adapté.
C'est ça.
Voilà. Et sachant peut-être que ce serait Bertrand Scholl qui
C'était pour lui.
C'était pour lui. Et donc, ça prend un tout autre sens. Et Anne et moi, on en a parlé ensemble, et on s'est dit, il faudrait peut-être pas donner la fin de l'histoire.
Non.
C'est ça le problème. Hein.
C'est le problème, en effet, c'est un spectacle, vous assistez à un spectacle, vous ressentez des émotions, vous voyez des choses, mais vous ne pouvez comprendre ce que vous avez vu aux deux dernières répliques. Alors c'est étrange comme parti pris, de dire, venez, vous allez voir quelque chose, mais on ne vous dit pas de quoi il s'agit. Vous allez découvrir. Je pense qu'on ne s'ennuie pas parce que Bertrand est un comédien extraordinaire et il attrape les spectateurs dès le début. Parce que quand même, cet homme est dans son lit, sa femme s'approche, dit qu'il est mort.
Voisine, moi, j'ai trouvé que la mise en scène est extraordinaire.
Ah, merci.
Non, mais c'est vrai. Quand je suis rentrée dans la salle, bon, c'est toujours des salles obscures, mais à première vue, voir ce lit... tout en hauteur, là, un lit, je sais pas, c'était assez, assez majestueux, ce lit. Et c'est donc Bertrand, le comédien, Bertrand Scholl, qui est debout, mais presque dans le lit, attaché, mais debout.
Oui.
Et ça fait une drôle d'impression. moi, ça m'a stupéfié. Et puis après, bon, il y a la musique. Et puis après, vous sortez du lit. Mais, enfin, mais c'est quelque chose de... c'est très, très impressionnant.
Oui, oui, il y a un côté à la fois... En plus, moi, je suis en scène quand les spectateurs rentrent, donc j'entends toutes les réactions, parce que je suis en train de dormir, et ça m'arrive même parfois de presque somnoler, parce que ça me permet de me détendre et de lâcher prise.
C'est difficile, quand même, de dormir sur un lit debout.
Mais en fait, je ne sais pas, je me mets en auto-hypnose, j'en sais rien, j'arrive à faire un truc bizarre, et en fait, c'est très drôle, parce que j'entends les réflexions des gens... voilà, il y a des gens qui parlent, forcément, rentrant dans une salle de théâtre quand ils sont plusieurs, et on entendait « Oh, mon Dieu !» voilà, il y a des réactions...
Il y en a qui rigolent aussi.
Il y a des gens qui rigolent, voilà, des rires nerveux, des rires angoissés. Et voilà, et c'est vrai que c'est je pense que c'est des sentiments, des sensations qu'on explore très rarement au théâtre.
Mais tout de suite, on sent le tragique de la situation.
Oui, tragique ou inquiétant, je ne sais pas trop.
Tragique,
ouais.
Inquiétant, oui, inquiétant oui. Je ne sais pas. Enfin, tragique, inquiétant, oui, c'est ça. Le truc, c'est qu'on se met un peu à la place.
Oui, 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 tout à fait.
On se met à la place de cet homme qui est cloué. Carrément, c'est presque comme s'il était cloué dans son lit.
Mmh, complètement.
Voilà, c'est le terme, parce qu'on dit « t'es cloué dans ton lit », mais là, c'est, on le voit, quoi. Mmh. Et donc, on se met un peu à sa place, et on a un peu de frisson, quoi.
Oui, parce que se faire enterrer alors qu'on est...
Et puis c'est là que intervient le jeu du comédien.
Mmh. Voilà. Ouais. Mais donc il est dans son lit toute cette première partie.
Ouais.
Tout le monde s'approche, le déclare mort, mais lui il vous parle, il vous dit ce qu'il ressent. Il se demande ce qui lui arrive. Après il s'inquiète un peu et puis ça va quand même très loin. Émile Zola, il allait encore plus loin dans la mort d'Olivier Bécaille. Il enterrait son personnage. Nous, on
oui,
va pas jusque-là.
Il est dans la terre.
Il est dans
il
la terre.
Il fouille avec ses ongles.
Voilà. Ouais, oui, donc, oui. Nous, c'est pas sordide à ce point-là. Bah, c'est pas...
Ah, si, si, parce que je voulais un petit peu. Si il se retrouve. c'est une genre de lit d'autopsie.
Tout enfin, à fait, c'est une table de dissection.
Nous, aussi.
On s'arrêtera à la mort.
On s'arrête à la mort. Et après c'est la Renaissance qui intervient.
Voilà. Et après, c'est tout le processus pour renaître à la vie quand on a subi quelque chose de.
Quel que soit le traumatisme.
Un traumatisme.
Parce que, voilà. En fait, la situation que décrit, alors, il est quand même très en avance, Émile Zola, parce que c'est
fou, hein.
Parce qu'il est. Et ce sont des cas qui ont vraiment existé,
oui, hein,
des gens
qui
sont déclarés morts et qui, en fait. Et puis, il y en a d'autres qui sont paralysés, qui ne peuvent plus bouger. Mm-hmm. Et ils ne peuvent plus bouger, ils ne peuvent plus parler. Et ils entendent tout ce qui est autour d'eux. Mmh. Et ça a existé. Et c'est des gens qui sont devenus paralysés, je ne sais plus pour quelle raison, enfin. L'histoire papillon, là, l'effet
papillon.
Qui ne pouvait parler qu'avec une seule
paupière. Voilà, c'est ça. Voilà, il y avait que la paupière qui pouvait. Si la paupière bougeait un peu, ça voulait dire oui ou ça voulait dire non. Enfin, il y a des cas comme ça qui ont été.
Oui, et puis c'est une situation qui est reprise dans plein de films hollywoodiens, d'horreur, de choses comme ça. Parce que c'est vraiment le maximum de l'impossibilité.
C'est quelqu'un qui est enfermé à l'intérieur de son corps.
C'est le corps empêché, voilà. Quoi.
Et il va réussir à en sortir et reconquérir sa vie par
oui,
différentes
parce que,
étapes.
Pendant ce temps, et chez Émile Zola. On le sent. Hein. Moi, j'ai bien aimé l'écriture d'Émile Zola rapport à ça.
C'est
parce
incroyable,
que,
hein,
parce que par rapport à d'autres textes beaucoup plus classiques, hein, parce qu'il a une écriture très classique, il faut quand même le reconnaître. C'est-à-dire, c'est pas un poète. Enfin, bon, il est. Et là, on sent qu'il avait une verve
très, très jolie phrase. J'en ai gardé quelques-unes parce qu'il y en a des magnifiques. Quoi,
oui, c'est un autre Zola.
Pas touché à ça.
Il faut reconnaître une autre écriture de Zola.
Complètement, oui.
Et à partir où le personnage se réveille, à ce moment-là, c'est mon histoire, c'est notre histoire, parce qu'on a voulu raconter quelque chose de très précis, hein, cette façon de retourner à la vie quand on a subi... je pense qu'on peut... quand même lâcher le mot, un deuil, c'est une histoire de travail de deuil, de reconquérir sa vie, de dépasser ses peurs. Mmh. Et donc voilà, et on suit ce personnage, comme l'interprétation de Bertrand est assez prenante.
Oui, parce que
on
c'est...
le suit jusqu'au bout pour attendre la délivrance. Et en fait, c'est un spectacle que l'on doit revoir dans sa tête à la lumière de ce qu'on vous a révélé à la fin.
Ouais. Souvent, les gens disent que c'est un thriller psychologique.
Mais c'est ce que j'ai dit, moi. J'ai écrit
vous
à
l'avez dit, ouais. Voilà, vous l'avez dit aussi.
Ouais, ouais.
Et oui, je trouve que le mot est très juste, en fait. C'est vraiment un thriller. C'est construit comme un thriller. Voilà, on essaie de comprendre voilà, les pistes, en fait. Il y a des pistes, il y a même des indices sur la
en fait,
fin.
En fait, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai.
Mais oui, on ne sait pas. On ne sait
parce
pas s'il est vivant ou mort.
Il y a dans sa tête... dans la situation où il est, c'est presque c'est son imagination qui prend le dessus.
Mais complètement. Mais moi, je pense qu'Olivier est dans un imaginaire depuis le début. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, parce que moi je l'ai vécu, quand ça arrive, voilà, quand la personne s'en va, on se met dans une espèce de délire presque, de délire. Les émotions sont multipliées, elles sont très fortes, elles sont parfois violentes, elles sont parfois, elles vous paralysent, comme Olivier, quand au début, dans son lit, c'est l'état de sidération, on est paralysé, la vie s'arrête d'un seul coup.
Je pense que, effectivement, oui.
Et c'est, en fait, c'est ça qu'on a voulu retranscrire dans... Enfin, que Jean-Benoît a voulu retranscrire
dans
l'écriture.
C'est l'état mental de l'écriture.
C'est l'état mental, complètement.
Et comme dit Bertrand, on met plein d'indices. Il y a un ami qui m'a dit, mais moi, j'ai cru que c'était un fantôme parce qu'il n'a pas de chaussures.
C'est vrai.
Et non, c'est parce que tu es avec lui, tu es en lui, en fait.
Ouais, c'est
pour ça qu'il n'a pas de chaussures.
Nous, ce qu'on veut, c'est que le public rentre dans moi, si je peux dire.
Voilà.
Et c'est vrai qu'il rentre dans ma tête, en tout cas. Dans la tête d'Olivier Bécaille. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, le corps est là sans être là. L'esprit vagabonde. Il y a des digressions, c'est normal, puisque l'état émotionnel dans lequel se trouve Olivier Bécaille, c'est ça aussi, c'est des digressions. C'est des changements brutaux d'humeur aussi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on amène, je pense, et c'est un peu ce que je ressens depuis qu'on le joue, c'est que les spectateurs voyagent avec moi. Il y a vraiment une sensation, et je leur dis maintenant à la fin, merci d'avoir voyagé avec moi, parce que c'est ensemble qu'on fait ce spectacle, finalement.
Et oui.
Et puis, c'est tellement universel. Enfin, je veux dire...
C'est-à-dire que ce qui est bien, c'est que ça raconte, justement, une expérience mentale qui est indicible.
Mm-hmm.
Qui est indicible. Et donc, c'est, oui, il y a des mots, les mots que... Mais indicible, c'est-à-dire ça ne peut pas s'expliquer, je veux
non,
dire.
Non.
Et donc, c'est votre corps qui le dit sur scène.
Oui, complètement.
Et la façon dont vous racontez l'histoire. Mais d'un point de vue cartésien, ça ne s'explique pas.
Non, mais il n'y a pas à expliquer les choses. Et c'est bien aussi, de temps en temps, au théâtre, d'arrêter de vouloir être dans le concret. Enlever le concret, ça amène la poésie. Et ça amène une dimension plus forte, beaucoup plus intéressante.
Mais parfois, l'imaginaire, on parle d'imaginaire comme si ça n'existait pas, mais l'imaginaire, c'est une réalité.
C'est une réalité. C'est une réalité humaine aussi.
Voilà.
On a besoin d'imaginaire, on a besoin d'imaginer. Et c'est vrai que les gens qui ont connu un deuil se retrouvent vraiment dans chaque étape du personnage. Et l'écriture de Jean-Benoît fait que... qu'il en a fait un voyage émotionnel et sensoriel. Et c'est ça qui est génial, c'est autant pour moi et parfois les spectateurs, parfois pas, c'est normal, on peut pas plaire à tout le monde, mais oui, c'est un voyage, c'est un vrai voyage.
Oui, c'est vrai, comme on dit, alors c'est une phrase un peu bateau, on n'en sort pas indemne.
Non.
Hein, les gens qui vont voir le spectacle n'en sortent pas indemne.
Ça fait beaucoup parler. Hein,
et émotionnellement, voilà.
Oui, ça chamboule.
Il y a des très belles discussions après, parce que les gens essayent d'abord d'interpréter.
Ils vont essayer de comprendre, oui, c'est sûr. Bon, voilà. Mais émotionnellement, ça remue,
mais en même temps, ça ramène à la vie.
Oui, parce qu'on se dit, bon, cet homme, il a quand même une certaine rage de vivre.
Ah ben complètement.
Ah c'est ça.
Complètement,
hein.
Oui, il a envie de vivre. Il a envie de passer au-dessus. C'est juste qu'il est empêché.
Ouais.
Et il est empêché par la situation. Et c'est cette rage de vie et cette force de vie qui va faire qu'à un moment donné, il va accepter l'inacceptable et qu'il va pouvoir avancer et continuer. Et forcément, ça va le changer à tout jamais. Comme toute personne qui vit un deuil important, ça nous change. Ça change. Voilà, mais c'est les expériences de la vie.
C'est une rupture, quoi.
C'est une rupture, mais c'est les expériences de la vie, et ça fait partie de la vie. Et moi, ce qui me plaît dans ce spectacle, et pour avoir entendu les commentaires de beaucoup de personnes, on se réconcilie. En fait, on se réconcilie avec sa vie, avec la mort, avec l'amour. Et pour moi, ça reste une pièce essentiellement axée sur l'amour.
Oui.
C'est une histoire d'amour.
C'est une histoire d'amour, ouais.
Voilà, et une belle histoire d'amour.
Une belle histoire d'amour, ouais, c'est vrai. Mais... voilà, on ne veut pas, comme on dit, déflorer.
C'est ça.
Déflorer le spectacle, ouais. En disant comment ça se termine. C'est au spectateur d'aller voir le spectacle.
C'est ça.
Hein, au public. Et on va déjà dire où ça se trouve. Et alors, bon, c'est une tradition sur à Dessoutène, c'est que le comédien est convié à dire un petit extrait.
Ah.
Voilà, ça c'est une tradition.
Alors, avec je vais prendre. Moi j'adore, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est quand il dit « Mes moments préférés sont ceux à la lisière de l'endormissement. Quand on sombre, le corps se dérobe, ne laissant que l'esprit reptilien en éveil. » Et si à cet instant précis, un coup de klaxon, la stridulation d'une sirène me réveille en sursaut, perdu comme je le suis, sans aucun repère, alors je peux croire qu'Anaïs est près de moi. Et je m'enflamme d'une joie pure, presque enfantine. Anaïs est là. Je bloque ma respiration, je ne bouge plus d'un cil. Déjà je pressens le mirage. C'est pourquoi je dois rester immobile afin de retenir encore quelques secondes le bonheur de l'avoir retrouvé.
Ah, c'est joli ça. Ouais, c'est joli, oui.
Et oui, pour moi, c'est le moment le plus... un des moments les plus émouvants à jouer pour moi, c'est voilà, c'est des, il y a des rendez-vous comme ça qui sont merveilleux.
Oui, mais je me dis quand même, c'est quand même intense et vous jouez ça tous les soirs.
Ouais, ouais, oui, c'est, c'est pas tous les jours
évident. Quand vous sortez, vous devez être.
Je sais pas le moment qui est le plus fatigant, si c'est avant ou après, je sais pas. Il y a, enfin, c'est fatigant, c'est pas le mot.
Non, mais émotionnellement pour vous aussi, hein, je sais pas. Ben, je...
Oui, mais je dois. Oui, je. Il y a de l'investissement, ça c'est sûr.
Ah oui, hein, quand même. Hein.
Voilà, on peut pas faire les choses à moitié, surtout avec un texte comme celui-là. Il faut y aller à fond et voilà et on. Voilà, il faut y aller quoi.
Oui, il faut y aller. Oui, oui.
Il faut y aller. Et,
alors donc on va dire où ça se passe. Tu peux dire ton ressenti aussi, Anne.
Oui, oui, non, mais j'ai beaucoup aimé. Alors, au début, je me dis, j'avais une cruche à côté de moi qui ricanait parce qu'elle me voyait sur scène. Je me dis, celle-là, je vais la tuer. C'est pas le moment. Non, donc.
Pourquoi qu'est-ce qu'elle avait
elle ricanait bêtement parce que je me suis dit, tout à l'heure, elle va monter sur scène. Oh là là. Et puis, non. Bon, ça a été. Mais oui, j'ai été très émue par le jeu de Bertrand et j'ai trouvé cette histoire. Curieuse, je connaissais pas du tout cette nouvelle de Zola de toute façon. J'ai bien aimé le.
Elle est éditée pour les jeunes.
C'est plus
toute
mon âge.
Seule. Non mais peu importe. dans un petit fascicule pour les jeunes.
J'ai acheté
ça à l'hôpital parce que je savais pas quoi faire, j'attendais.
Oui.
Et donc on le trouve à 2,50 €.
Oui,
enfin
oui.
Bon,
non,
voilà.
Je la lirai.
Mais parce que sinon.
Non mais le
Zola, les Rougon-Macquart, non, c'est pas
très bien aussi d'ailleurs.
Après c'est pas un des plus gros succès de Zola. Hein,
non, c'est sûr.
Mais c'est vrai que c'est une pièce, enfin c'est une nouvelle très surprenante quoi.
Oui.
On dirait d'Edgar Poe plus que du Zola.
Oui.
Plus fantastique.
C'est-à-dire que
moi
je me suis retrouvée dans l'atmosphère des nouvelles fantastiques. Du 19e siècle.
Ben ouais,
hein. Tout à fait. Hein. Et j'ai aimé parce que. Enfin, j'ai aimé. Je veux dire. C'est vraiment le 19e.
Oui, complètement.
Et aujourd'hui.
C'est du romantisme.
C'est ça. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des personnes qui écrivent que. Non, ça a déjà été fait. Alors,
ouais.
Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que. On a l'impression que ça. C'est représentatif, en fait, d'une réalité. Mmh. C'est que les individus peuvent ressentir des choses comme ça.
Complètement.
Hein? Voilà. Seulement, comme dans les sociétés, si on parle de ressenti comme ça, on peut tout de suite dire, il est fou, celui-là, ou elle est folle, celle-là. C'est pas forcément bien accepté.
Non, mais j'aime bien aussi quand il parle de ses voisins, de la voisine.
Ouais.
Pas possible. Et puis du médecin qui est complètement naze aussi, de toute façon. Et c'est vrai que c'est inquiétant.
Il y a un côté absurde aussi.
Oui,
enfin, il y a une situation d'absurdité.
Mais il y a une critique aussi, critique sociale. Hein, aussi.
Complètement, oui. Ouais, et puis il est révolté à ce moment-là parce qu'il se rend compte qu'il ne peut pas bouger et qu'on va l'enterrer vivant. Et il est apeuré, il est paniqué, il est dans un cauchemar, quoi. C'est un véritable cauchemar.
Oui. Ça parle quand même de la solitude individuelle, quand même.
Complètement. Hein. Ben, c'est la solitude de l'absence. Quoi.
De l'absence, et puis même vis-à-vis des autres, parce qu'il ne peut plus communiquer avec autrui. Hein.
Mais non. Et puis dans la deuxième partie, c'est vrai que quand il revient à Guérande et tout ça. Oui. Et là, c'est la solitude qui prend le dessus, c'est-à-dire les gens se détournent de lui, on ne le regarde plus, on ne lui adresse plus la parole, il ne comprend pas pourquoi. C'est un vrai voyage de solitude. Ce que vit ce personnage est assez
Et assez d'ailleurs, cette solitude, ça prend plusieurs aspects, mais c'est une solitude. C'est l'individu qui se sent seul dans la société.
Oui, oui. Hein.
Je me dis, en ce moment, on voit de plus en plus de personnes qui font la manche ou qui, qu'on voit sur le trottoir en train de... On dit, il y a quand même des gens qui sont dans la solitude.
Oui, et encore, et la solitude n'est pas liée à la profession ou au niveau financier. On peut être très riche, avoir tout ce que l'on veut.
Oui, il y a plusieurs sortes de solitude. Mais
c'est ça.
Je veux dire, être seul, alors qu'autour de soi, il y a un monde quand même. Mm-hmm. Il y a le monde, il y a la société.
Il y a des gens qui peuvent se retrouver chez eux. Hein,
voilà.
On retrouve des gens 3 jours après.
C'est pas nouveau. Mais on peut transporter cette histoire aussi dans une histoire de solitude individuelle et sociale.
Oui, complètement.
Ouais.
Mais parfois, c'est une solitude choisie ou une solitude subie. Mais voilà, Olivier, je pense que c'est la solitude de cette société où la mort n'a plus sa place, si je peux dire. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'est plus tellement acceptée. Et c'est vrai que Moi, j'en parle de ma propre expérience parce que je l'ai vécu. Quand j'ai été endeuillé, je me suis senti seul, mais parce que je pense que je l'ai choisi aussi à un moment donné, parce que j'avais besoin de me reconstruire et de m'isoler. Et en même temps, c'est une solitude qui s'impose par la situation. Et c'est ça aussi qui m'intéresse dans ce spectacle, c'est de faire comprendre aux gens qui vivent ou ont vécu ce genre de situation qu'à un moment donné, ça va s'arranger. À un moment donné, les choses vont revenir à la norme, les choses vont... Et c'est important de comprendre, en fait, ces moments que l'on traverse, parce que y a l'incompréhension crée une solitude aussi. Et le regard extérieur est très compliqué.
Le regard extérieur est très compliqué, parce que on a beau dire, c'est un peu comme le racisme, enfin, je veux dire, le regard que quelqu'un porte sur vous, c'est comme un miroir.
Oui, c'est ça.
Alors... c'est très vite fait, on peut se sentir dévalorisé. À tel point que moi, ça m'arrive, je peux avoir des vilains regards sur les autres, et j'essaie de m'arrêter. Je me dis, zut, j'ai un vilain regard, et l'autre va le voir. et ça, oui, parce que moi, le vilain regard que les autres ont sur moi, je connais aussi. Donc, j'essaie un petit peu de...
Mais c'est ce qu'on reflète, quoi.
Et voilà, exactement.
Ouais, ouais.
Parce que ce regard qu'on a sur les autres, on a beau dire, c'est un regard qui empêche.
Ouais, qui empêche.
Et qui fait du mal.
Complètement.
Qui fait du mal, ouais. Et donc, on le sent aussi dans la pièce.
Bah, complètement. Et il le dit à un moment donné, quand il se regarde dans le miroir, qu'il ne se reconnaît plus. Et qu'il dit qu'il a l'air triste, qu'il a... Voilà, et qu'à un moment donné, il se dit non, il faut que ça change, il faut que je retrouve le sourire, il faut que je retrouve la joie, il faut que j'avance. Et c'est tout ça aussi, comme quand il dit... voilà, le malheur s'est abattu sur ma maison, alors il faut me fuir, c'est peut-être contagieux. Il a conscience de tout ça, en fait. Et c'est ça qui est
il y a une remise en question.
Il y a une grosse remise en question, oui, il y a de l'introspection. Vraiment, il y a beaucoup d'introspection chez
Olivier. C'est ça qui est intéressant, oui.
Oui, complètement. Il réfléchit tout, en fait. Il réfléchit tout à sa situation, à ce qu'il traverse, à ce qu'il vit. Il se pose des questions existentielles et qui sont tout à fait normales dans un processus de deuil.
Ouais.
Voilà.
Tout à fait.
Et Jean-Benoît a eu le génie de mettre des mots,
bravo,
des mots simples.
Bravo, Jean-Benoît.
Merci. Voilà.
Et la mise en scène qui est super. La musique aussi.
Oui, d'Olivier Mélano.
Oui, très belle musique d'Olivier Mélano.
Alors, vous nous dites où ça se passe, quel jour.
Ça se passe à la scène libre, c'est-à-dire 4 boulevards de Strasbourg pour les Parisiens qui connaissent. C'est le milieu là où il y a tous les théâtres. Voilà. Donc, la scène libre. Et ça se joue le
jeudi, vendredi, samedi.
Et à partir du mois de mars, ce sera aussi le dimanche.
Le dimanche à 19h.
Jusqu'à quand ?
Jusqu'au 24 mars.
24 mars.
Et c'est à 21h en semaine.
21h en semaine. Et le dimanche, à partir de...
Le premier dimanche de mars à 19h.
D'accord.
Voilà. Et il y a un petit trou dans la programmation parce que je pars en tournée sur un autre spectacle. Donc,
voilà. D'accord. Et c'est quoi ce autre spectacle ?
La putain respectueuse de Jean-Paul Sartre.
Ah, j'adore ça.
Voilà.
Mais je l'ai vu.
Oui, vous m'avez vu. Voilà. Ah, et je jouais le méchant Fred.
Avec Laetitia.
Avec Laetitia Lebac.
Ah oui, voilà. Je l'ai vu.
Ouais, on part en tournée.
Si je peux juste dire aussi que j'ai ma pièce Darius qui reprend.
Ah, j'aime beaucoup cette pièce.
Mais je l'ai vue aussi.
Mais oui, mais elle reprend enfin au Lucernaire. Elle arrive au Lucernaire où je rêvais qu'elle soit jouée.
C'est pas une histoire de parfum.
C'est ça, tout à fait.
Et je l'avais vue avec cette actrice est vachement connue là.
Clémentine Sellary.
Oui, je l'ai vue avec Clémentine.
Voilà, ça c'était le grand orchestre. Et maintenant, il y a la petite musique de chambre magnifique avec Catherine Emery et François Cognard.
Et ah, elle est bien, Catherine Emery. Hein.
Voilà, ça fait
elle est super
magnifique
aussi.
Dans ce spectacle,
elle
est magnifique.
Il faut que j'aille le voir alors.
À partir du 6 mars, oui, au Lucernaire.
Ah, j'irai le voir.
Bon. Merci.
J'irai le revoir sous une autre distribution.
Voilà. Ouais.
Eh bien, écoutez, merci, merci Bertrand Scholl, Jean-Benoît Patricot.
Merci à vous.
Et, on
dit pas bonne chance, on dit non. Rien, mais c'est bien parti.
Je crois qu'on dit merde, hein. Oui, mais j'avais pas besoin, mais je vous dis quand même.
On prend.
Voilà.
Comme veut la tradition.
Alors, Michel, ton annonce, hein.
Oui, alors très rapidement, excuse-moi, je prends ton micro. Voyons voir, Rachel Sonal, qu'on connaît bien ici, puisque elle venait avec Patrick Kipper des fois faire dans les émissions il y a peu de temps. Mercredi 28 février à 19h30, elle joue au Mobilhome, 21 rue de la Mare. Donc c'est mercredi 28 février à 19h30, Mobilhome. Et puis alors les incompétents dont je fais partie jouent.
Oh, incompétents!
15 rue Égésip Moreau. Demain, métro La Fourche, à 15h, c'est 15 rue Égésip Moreau. Voilà, c'est pour une expo de Kenza Kabash, une expo de sculpture.
Très bien.
Voilà.
Merci Michel. Ouais. Voilà. Eh bien, l'émission se termine.
Et oui.
Et à la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, il y aura Nicolas Porcher pour la pièce Un prince à la tête de coton, qui se joue actuellement à La Flèche. Au théâtre La Flèche, 77 rue de Charonne, à 19h. Et la chanteuse, la belle chanteuse bretonne, Frédéric. Voilà. Voilà pour le programme de la semaine prochaine.
Merci
beaucoup.
Myslela si Alenka. Uvidíte film. Pro děti. Možná. Abych nezapomněla. Teď musíte. Zavřít oči. Jinak nic neuvidíte.
Bonjour à tous, bienvenue dans Bulle de rêve, la seule émission hein, qui parle d'animation hein, voilà, sur la bande FM, hein, voilà, sans publicité, avec de la très bonne musique et puis avec un excellent animateur.
Voilà, Alexis, on va arrêter là, merci.
Alexis Hino avec toute son équipe. Voilà, et puis. Voilà, je vous laisse en sa compagnie.
Merci beaucoup Fabien, vous l'avez entendu juste avant, en effet il fait les deux émissions même s'il ne va pas rester longtemps avec nous. Merci d'être présent, on l'a déjà dit souvent, on en a parlé à ce micro, hein, c'est notre auditeur fidèle, on en a d'autres, mais Fabien, et puis surtout il a aidé à un moment donné où vous saviez qu'on avait des petits problèmes au niveau du podcast, enfin voilà, des choses comme ça, il a enregistré toutes les émissions, et si les émissions sont en ligne, une grande partie des émissions en ligne aujourd'hui, c'est grâce à lui, donc encore un grand merci à toi d'être là aujourd'hui. D'ailleurs, peut-être que tu vas pouvoir nous dire aujourd'hui, on va parler d'Alice, ressortie exceptionnelle d'un